La dette de l'assurance chômage avec Pascal Franchet.
Alors, juste pour initialiser le sujet de la dette du régime d'assurance chômage, c'est une dette d'à peu près 35 millions d'euros, milliards d'euros. Moi, à ce degré-là, je ne sais plus. 35 milliards d'euros. 400 millions de remboursements d'intérêts par an, à peu près. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est inéluctable? Eh bien, Pascal va nous le dire. Voilà, merci de votre attention.
Je vais juste vous présenter le collectif de l'audit de la dette citoyenne, qui est un collectif qui a été créé par le CADTM et ATTAC d'un point de vue national et qui s'est créé dans différentes localités. Sur Lyon, donc, on a continué, ça fait plusieurs années que le CAC et les CAC ont été créés. Sur Lyon, on continue. Ce collectif s'est élargi. Il a des organisations politiques, donc le PC, par exemple. On a des organisations syndicales, l'organisation solidaire. Et sinon, il y a ATTAC, le CADTM et des individus non encartés. Donc, on continue à travailler. On a sur le document qui appelait à la conférence d'aujourd'hui, vous avez notre site, le site du CAC, où il y a les textes qu'on a écrits localement sur les emprunts toxiques, sur la dette de la sécurité sociale, à la base du document qu'avait fait Pascal Franchet sur la dette sociale. Et donc, vous retrouvez ça sur votre site. Et puis, voilà, je suis prête à vous en parler aussi en sortant. Bonne conférence.
À Pascal.
Bonjour, vous m'entendez là? Oui, d'accord. Donc bonjour à mon tour. Donc, je viens de Bretagne, où il fait beau également. Je vous remercie. Et je viens vous parler de la dette de l'assurance chômage, mais je vous en parle à un moment un petit peu particulier, puisque depuis mercredi, les négociations qui avaient lieu entre ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des syndicats ouvriers et des syndicats patronaux, ça a échoué, donc rupture des négociations, de la discussion pour établir la nouvelle convention d'assurance chômage. Ce qui veut dire que juridiquement, maintenant c'est l'État qui doit reprendre la main et donc publier par décret les nouvelles dispositions. Ça va être coton, surtout qu'on est dans un contexte un petit peu particulier. Je viens de Rennes où il y a une manif interrégionale de gilets jaunes aujourd'hui. Il y en a un peu partout dans le pays depuis 15 semaines. Et c'est un climat qui n'est pas favorable au gouvernement, ce qui est une bonne chose au vu des massacres des droits des salariés qui sont en cours aujourd'hui. On travaille sur la question de la dette sociale au sens large. Quand je dis on, c'est au CADTM, mais dans d'autres organisations également. Le CADTM, pour faire très vite, c'est une association à but non lucratif qui est présente dans une quarantaine de pays, en Afrique, en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est et dans une dizaine de pays européens. Depuis la crise de 2008-2009, on avait commencé en 2007. On travaille également sur la dette publique des pays du Nord, mais également sur la dette privée des particuliers, des entreprises. Là, je vais vous parler aujourd'hui de la dette de l'UNEDIC. Alors, une précision qui me paraît utile, même si je pense que vous le savez pour beaucoup, l'UNEDIC ne fait pas partie de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quatre caisses, hein, l'assurance maladie, vieillesse, allocation familiale et accident du travail, maladie professionnelle. Donc ça, c'est la forme issue du Conseil national de la résistance et du travail d'Ambroise Croizat à la Libération. L'UNEDIC, il n'y a pas eu de branche chômage de créer à la Libération. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plein emploi, d'une part, il y avait quelque chose comme 80 000 personnes qui ne travaillaient pas. À l'époque, on ne comptabilisait pas les femmes, il ne faut pas exagérer. C'est arrivé que bien plus tard. Mais bon, c'était aussi une réalité. Donc, c'est en 1958 que De Gaulle, dans sa logique qu'il a menée au référendum, a négocié avec le syndicat Force ouvrière la création de l'assurance chômage, en disant au mois d'août 2008 qu'il voulait préparer les travailleurs à un statut européen. Donc, il y avait déjà cette logique de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Et donc l'UNEDIC a été créé en 1er janvier 1959 avec une particularité qui la différencie de la sécurité sociale, c'est que dès le départ, c'est un organisme paritaire. C'est-à-dire moitié syndicat, moitié patronat. Dans les caisses locales d'assurance maladie, de sécurité sociale en général, c'était pas du tout paritaire. Il y avait une majorité significative des syndicats, le patronat était minoritaire. Ce qui est, à mon avis, déjà trop. La place minoritaire du patronat, c'est vrai parce que je suis anti-patron, quoique un peu, mais c'est parce que c'est l'argent des salariés. Donc c'est aux salariés de gérer ce salaire différé qui est la mutualisée que représente la sécurité sociale. Alors, la CGT avait refusé de participer aux négociations sur la création de l'UNEDIC, mais ça ne l'a pas empêché de rentrer dans le conseil d'administration de l'UNEDIC au vu de sa représentation indiscutable dans le pays. Donc, dès janvier 1959, se met en place cet organisme paritaire qui est en charge par délégation du gouvernement. Avec une réserve, cette délégation, c'est que si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une convention qui régit le fonctionnement, les cotisations, etc., il appartient à l'État de reprendre la main. Ce que fait l'État aujourd'hui, c'est dans les textes depuis la création du DEDIC. C'est important, ça vient présent à l'esprit. Également, à la fin des années 50, est réapparu le terme cotisation salariale. Alors qu'il n'en était pas question jusqu'à présent, ça avait été évoqué en 1928 au moment de la création des allocations familiales. Mais par exemple, au moment de la mise en place des régimes de retraite, ça n'avait pas du tout été évoqué. Encore moins quand on a créé la branche Action du travail maladie professionnelle, c'est-à-dire en 1898, c'était une charge. C'était une cotisation qui incombait uniquement aux employeurs. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La branche ATMP, comme on dit, avec le travail maladie professionnelle, est uniquement à la charge des employeurs. Il n'y a pas de cotisation dite salariale. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle soit dite salariale ou pas, ça reste une cotisation des employeurs. Parce que si elle est salariée dans la salle, ils savent très bien que ce qui touche, c'est le salaire net, et que la partie du salaire qui est transformée en cotisation sert à financer un salaire socialisé, partagé, mutualisé entre tous. Je cotise aujourd'hui pour les retraités d'aujourd'hui et pour les gens qui ont besoin d'assurance maladie aujourd'hui, pas pour demain, on ne thésaurise pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, la négociation a capoté, je dirais, après, très rapidement, la genèse de la dette de l'UNEDIC. Elles ont capoté sur plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est le refus par le patronat de vouloir entendre parler de bonus-malus. La CFDT était favorable au bonus, la CGT était favorable au malus, et Force ouvrière est un petit peu des deux, de façon pondérée, c'est un petit peu compliqué à comprendre, et le patronat, pas du tout. Il voulait bien admettre 5 euros par an pour des contrats à durée courte. Parce qu'aujourd'hui, 80% des embauches se font en CDD. Et vous avez des contrats à durée déterminée, même de 24 heures aujourd'hui, qui commencent à se répandre. Les hôtesses d'accueil, par exemple dans un salon comme celui-ci, très souvent ne sont rémunérées que pour 1, 2 ou 3 journées. C'est l'intérim autorisé sans passer par les voies d'intérim, en fait. Donc on a une situation de tensions lourdes. La deuxième raison, c'est les syndicats qui ont refusé la dette de cadrage donnée par le gouvernement, qui dit qu'il faudra faire 1 milliard d'euros d'économies par an sur le dos des chômeurs, quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a que, d'après les chiffres de Pôle emploi, 43% des chômeurs qui sont indemnisés, ça veut dire qu'il y en a 57 qui ne le sont pas, c'est quand même énorme, et que l'indemnisation moyenne est de 1200 euros. Alors, c'est vous dire qu'il y en a qui sont vraiment en dessous, qui touchent vraiment pas grand-chose. Alors, de se faire ponctionner encore plus, ça risque de craindre pas mal. Et c'est le chemin que prend le gouvernement. Et s'il fallait une preuve de cette intention de faire payer aux chômeurs. Il suffit de voir les décrets qui ont été pendus le 30 décembre dernier qui portent répression des chômeurs, suppression des allocations en cas de non-pointage ou de refus d'une offre raisonnable d'emploi. Une offre raisonnable d'emploi, on ne connaît pas bien la définition, il n'y en a pas d'ailleurs. Si vous étiez informaticien à 2500 euros ou 3000 euros, est-ce que vous devez accepter impérativement à 200 km de chez vous un emploi à tout juste payer au SMIC? C'est ça une offre raisonnable d'emploi à la tête de nos gouvernants. Donc voilà, donc l'UNEDIC, hein, comme l'a dit André tout à l'heure, hein, a une dette aujourd'hui de 35-36 milliards d'euros au 31 décembre 2018. Je dis 35-36, je ne suis pas précis parce que le directeur de l'UNEDIC lui-même a donné 3-4 versions différentes du résultat et qu'on va sur le site est un peu confus également. Donc les comptes sont bien tenus, du moins on nous l'assure. Donc il y a cette dette qui est considérable. D'où vient la dette de l'UNEDIC? Elle n'est pas vieille. Elle a une douzaine d'années, pas plus. Elle vient de la différence, comme pour l'État, entre les recettes et les dépenses. Or, les recettes de cotisation sont supérieures à ce qui est versé comme indemnité. Il y a un milliard de plus de cotisation que d'indemnité versée. Alors, où passe la différence? La différence, ça passe d'une réforme voulue par Hollande et mise en place par Sarkozy, qui est la fusion de la NPE et de la SMIC en 2009, au 1er janvier 2009, qui oblige l'UNEDIC à verser 10% de ses recettes, donc 35 milliards de recettes, c'est 3,5 milliards à peu près, pour le fonctionnement de Pôle emploi. Et en plus, grosse aberration à Pôle emploi, l'essentiel des missions de Pôle emploi, les plateformes de recensement, de formation, etc., ont été confiées à des boîtes privées, Capgemini et autres. Et c'est une... pratiquement toute l'informatisation de Pôle emploi est entre les mains du privé, ce qui n'est pas au fonctionnement. Et c'est une anomalie que cette fusion ordonnée par l'État soit payée par une association dont c'est pas le boulot. Son boulot, c'est de collecter des cotisations d'assurance chômage et de rémunérer autant que faire se peut les privés d'emploi. L'autre aberration dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, alors c'est vrai que les montants paraissent pas très importants. Hein, on a quoi, 400 millions d'intérêts par an, ça va de 250 à 500 millions pour une seule raison, c'est que les taux d'intérêt sont très bas. À écouter Bruno Coguet, qui est l'économiste officiel qui parle au nom du patronat très souvent, même s'il se réclame de l'OFCE, il dit la dette n'est pas un problème. C'est un problème parce qu'elle résulte de dépenses servant à financer une opération qui n'est pas dans l'objet de l'UNEDIC, et pas n'importe quelle opération, qui est de financer des boîtes privées, Capgemini et autres. Donc à côté de ça, on pourrait mieux indemniser les chômeurs parce que il y a une autre réalité qu'il faut bien prendre en compte, c'est que depuis 2003, le taux des cotisations n'a pas bougé. Ça fait, on est toujours à 6,4% depuis octobre de 2003, alors que le nombre de chômeurs a évolué de façon considérable, il a doublé. Dans la même période, depuis ce moment-là. Donc c'est normal, les recettes ne bougeant pas, que les dépenses restant constantes, voire augmentant un peu, il est normal qu'il y ait un déficit et qu'il faut financer le déficit. Dans le fonctionnement d'UNEDIC, on s'est dit, c'est une association, loi 1901, un fonctionnement paritaire, les organisations syndicales doivent bien savoir ce qui se passe dans les couloirs de l'UNEDIC, et notamment en ce qui concerne le fonctionnement de cette dette. Et on a été très surpris, en interrogeant des gens de la CFDT, de FO et de la CGT, ils étaient vraiment mis devant le fait accompli. On leur présentait, par exemple, en réunion de conseil d'administration, ce qu'on appelle des documents sur table. On vous remet une chemise, où il y a des documents. Il faut rendre le document à la fin de la réunion. Vous n'avez pas le droit d'appareil photo, d'enregistrer. Et vous devez prendre la décision pendant la réunion. Et dans la décision, c'est d'adopter la politique financière qui est décidée par le bureau de l'UNEDIC, où la CGT ne figure pas, mais où le patronat règne en maître là-dessus avec des conseillers de l'État. C'est quand même un fonctionnement pour le moins arbitraire et très discutable. Pour le sort de les autres anomalies qui résultent de ce fonctionnement, c'est que par exemple vous avez la métropole de Lyon. Quand elle veut faire un emprunt, elle demande à une agence de notation, Fitch en général, je crois que ça doit être ça pour Lyon, de dire si elle est solvable, si elle a, comme on le fait pour l'État. Et non, à l'UNEDIC, c'est pas une agence de notation, c'est trois agences de notation. Alors, on ne connaît pas le montant parce que les chiffres ne sont pas publiés, mais on traîne aux alentours de 300 à 400 000 euros par an par agence de notation. C'est quand même assez considérable. Également, ça a changé il y a peu, on pense qu'on y est pour quelque chose. Le commissaire aux comptes, qui était le cabinet de Deloitte jusqu'au mois de juin, je crois, était commissaire aux comptes depuis 19 ans. C'est quand même une anomalie en matière de gestion. Il n'y a pas eu d'appel d'offres depuis, au bout des 6 ans réglementaires. Donc c'est quand même une sacrée anomalie. Et on tient beaucoup... Souvenez-vous de ce nom, Deloitte. Même s'il n'est plus aujourd'hui commissaire aux comptes, une autre boîte qui est... Parce qu'on a cherché qui étaient les créanciers de l'UNEDIC. Alors comment ça marche, les emprunts de l'UNEDIC ? L'UNEDIC, comme l'État, émet des obligations. Une obligation, comment ça marche ? Vous avez une obligation, je vais dire une bêtise, à 2% sur une durée de 10 ans. Pendant 10 ans, le débiteur, c'est-à-dire l'UNEDIC, ne paye que les intérêts, les 400 millions dont on parlait tout à l'heure. Et au bout des 10 ans, on rembourse le capital. En fait, on ne le rembourse pas vraiment parce qu'on réemprunte pour rembourser ce que fait l'État. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Et on a donc cherché, donc ça c'est une obligation qui est peut-être à un taux très bas, mais comme elle bénéficie de la garantie de l'État, parce que l'État s'est impliqué juridiquement en affaires et donne sa garantie par décret ministériel tous les ans, d'aide, j'ai dit, garantie qu'à tel auteur, etc., autorisé à emprunter 5-6 milliards cette année ou plus, voilà. Ces dettes sur le marché secondaire se vendent très cher, parce que c'est une forme d'assurance pour les spéculateurs. Et on les retrouve dans des endroits un petit peu curieux. Alors, nous, on a enquêté sur Internet pour retrouver les créanciers. On a procédé de deux façons. On a suivi le cheminement légal. Et puis, on a l'autre qui ne l'est pas vraiment. Alors, le cheminement légal, ça a donné quoi ? Ça donne qu'une obligation, elles sont enregistrées, numérotées, avec des souches, des numéros de souches, etc. Et il y a un endroit où on les trouve sur le marché secondaire, c'est sur le site d'Euronext. Euronext, c'est un marché financier où vous trouvez des tas de choses intéressantes quand on s'intéresse à ces questions de dette, bien sûr. Si on ne s'y intéresse pas, n'y allez pas. Et on a réussi à retrouver quelques créanciers par ce biais-là. L'autre biais, on est parti d'une hypothèse. On s'est dit, comme la dette des États en Europe et dans le monde intéresse surtout des structures financières comme des fonds de pension, des mutual funds, des hedge funds, des structures qui sont parallèles aux banques habituelles, on est parti donc de ces structures-là pour essayer de les retrouver. Et on a retrouvé pas mal de ces structures qui... notamment un fonds de compensation de la sécurité sociale du Luxembourg qui est assez phénoménal et dont le compte est de Deloitte. Ouais, je vois que je suis bon, ce qui est comment on est à la limite du conflit d'intérêts dans cette affaire. C'est assez extraordinaire comme situation. Il ne faut pas oublier qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des chômeurs qui ne peuvent pas finir le fin de mois, qui ne payent pas leur loyer, qui sont dans des situations très difficiles. des gens qui sont dans des situations de misère, il y a un taux de suicide et de maladie chez les chômeurs qui est bien supérieur à ceux des salariés en bonne santé. Parce que quand on est chômeur, on ne soigne pas normalement, comme tout un chacun, quand on a une activité salariée ou en tout cas qui donne droit à la sécu. Voilà cette situation. Donc on a une situation assez aberrante aujourd'hui. Alors, tous ces gens-là, on les a pistés, qu'on a retrouvés les fonds de pension, Mutual Fund, et on les a retrouvés sur la liste des Wikileaks. Vous vous rappelez, le Panama Papers, tous ces choses-là, Paradise Papers, Luxleaks, Wikileaks. Il y a un site internet où il y a des tas de tableaux. Alors, un tableau Excel, on a pioché, on a décortiqué, on a cherché, et on a retrouvé les numéros de souches et d'obligations qui figurent sur le site de Ronex, qui a un caractère officiel. Donc on a retrouvé les mêmes souches dans les paradis fiscaux. Donc l'argent qui doit servir à diviser, on le retrouve à Panama, au Bahamas. Et il y a un député de La République En Marche qui avait dit qu'il en avait marre de voir les chômeurs et la dignité et aller les dépenser au Bahamas. D'ailleurs, je vous annonce la sortie d'un film prochainement, fin d'année ou début d'année prochaine, qui va s'appeler l'effet Bahamas, qu'on a mené une enquête pour savoir s'il y a beaucoup de chômeurs au Bahamas. Pour l'instant, je ne dis pas où on en est, mais on n'a pas trouvé vraiment. Enfin, à part quelques vedettes, mais comme Danny Moon, par exemple. Voilà. Parce que Danny Moon, qui se veut une vedette de l'honnêteté fiscale. Je sais pas si vous avez lu sur Mediapart, mais il fait tout pour échapper à l'impôt. Hein. Il y a des comptes à la City, un peu partout, dans les paradis fiscaux. Alors qu'il était obligé de dire à la radio, à la télé, qu'il était pour payer les impôts, parce qu'il remercie la France de l'éducation qu'il a reçue, des soins qu'il a eu enfant, etc. On le remercie de la gratitude, mais peut-être pas. C'est un évadé fiscal. Voilà, donc ça amène à poser la question qu'est-ce qu'on a comme réponse par rapport à ça? Alors, nous pensons que dans le type de société dans lequel on est, on a encore pour un petit bout de temps, sauf bouleversement de la société, ce qu'on pourrait souhaiter, on a encore besoin d'une assurance chômage. On a besoin, avec l'évolution de l'emploi ces dernières années, de faire des pronostics à moyen terme pour dire qu'il y aura encore des chômeurs pendant quelques années. Et quand on voit le sort donné aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, on a de quoi être inquiet. On peut être optimiste en disant qu'on va changer la société. Évidemment, il y aura du boulot pour tous, ça vivra bien, mais mon petit doigt me dit que peut-être pas demain, mais juste après-demain, en attendant, pour demain, il pourra une assurance chômage. Alors, je crois qu'il faut d'abord commencer par relever le niveau des cotisations. C'est absolument anormal que depuis 15 ans, le niveau de cotisation payé par les employeurs soit un taux aussi bas. Non seulement il est bas, mais une partie est exonérée maintenant, et c'est les salariés et les retraités qui la payent à travers la CSG. Pas la CSG qui est reversée au budget d'État, qui doit reverser de la TVA à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse à l'UNEDIC après. En gros, l'idée, c'est que c'est la CSG qui remplace les cotisations dites salariales. Et ça va aller plus loin, parce que, comme disait le député de la République En Marche, que j'ai vu dans mon département en début de semaine, il n'y a plus de CICE maintenant, c'est juste des exonérations de charges. Alors je lui ai dit que tous les rapports de la Cour des comptes depuis 30 ans, disent qu'il n'y a aucune rien qui permet de dire que c'était créateur d'emplois ces exonérations de charges. Absolument rien. Ni même que ces exonérations ont permis de sauvegarder les emplois. Ça, c'est rien de ne l'affirme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est nous qui compensons à travers nos impôts l'exonération de charges que les patrons ne payent plus. Quand je dis les patrons, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire, je suis aussi dans un groupe gilet jaune à Rennes. Il y a un boulanger, il y a un artisan, il y a un taxi, il y a des gens comme ça, qui m'expliquent et qui m'ont montré leur comptabilité. J'étais contrôleur aux impôts avant, donc je sais à peu près les lire, et qui me montrent ce que représentent les charges sociales, j'en dis cotisations, pas charges, les cotisations sociales qu'ils ont, Ils mélangent tout, hein, assurance, bon. Et que c'est vraiment, eux, lui, il voudrait embaucher son gendre à la boulangerie, mais il veut pas dégager assez d'argent pour le. Et je comprends. En toute honnêteté, il va montrer ses comptes et je suis affirmatif, il ne peut pas payer quelqu'un actuellement. Donc si quelqu'un devrait bénéficier d'exonération de charges, peut-être quelqu'un comme lui, ou des très petites entreprises ou des PME, mais aussi qu'il doit y avoir une contrainte. C'est-à-dire que la personne qui bénéficie d'exonération, ça doit être pour embaucher, pas pour s'en mettre plein les poches. Or, le CICE hier et les exonérations de charges aujourd'hui, qui vont être de 40 milliards en 2019, ne comporte aucune obligation pour les employeurs qui le touchent. J'ai suivi un syndicat CGT chez Carrefour à Rennes, où je suis la plupart du temps. La boîte a enregistré une flambée de ses bénéfices, une flambée des dividendes versés aux particuliers, une flambée du CICE perçu, et le groupe Carrefour licencie 2500 personnes. Je veux dire, et fait donc 2500 chômeurs. Et petite cerise sur le gâteau, on retrouve le groupe Carrefour à travers une de ses filiales, une structure qu'ils ont montée, où ça ? À Panama, dans les paradis fiscaux. Donc l'enjeu autour de l'assurance chômage, et c'est bien que les syndicats aient dit qu'on ne peut pas négocier à ces conditions-là. Et c'est une question éminemment politique, pas une question uniquement économique ou technique. C'est vraiment un choix aujourd'hui de... Qui doit la protection sociale aux salariés et aux salariés et à leurs familles. Je crois aussi d'avoir ça présent à l'esprit, qui peut nous aider. Alors, la deuxième chose qu'on revendique, c'est la diminution du temps de travail avec des créations d'emplois pour équivalentes. La seule chose qui a permis la création nette d'emplois de 350 000 emplois, c'est le passage aux 35 heures. C'est la seule chose que note la Cour des comptes comme ayant un solde positif de 350 000 de création d'emplois. La troisième chose, effectivement, d'augmenter les salaires, parce que les moyens existent, peut-être pas partout, mais ils existent dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, parce qu'aujourd'hui, les cadeaux fiscaux, les exonérations diverses ne se traduisent pas en investissement dans l'entreprise, mais en augmentation des dividendes, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de valeur. En contrepartie. Et donc, quand il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création d'emploi non plus. Et voilà, quand il n'y a pas de création d'emploi, il y a du chômage. Et quand il y a du chômage, il faut le payer. Voilà, c'est tout un cycle mécanique qui nous a amené à enquêter là-dessus et à rendre public les éléments. Alors, on a sorti un petit rapport intermédiaire d'audit de la dette que vous trouverez sur la table en sortant, si vous le voulez. En attendant, je vais arrêter de parler tout seul et puis je vais vous laisser poser des questions. Je vous remercie.
Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions autour de cette dette ? Pas de curiosité ? Oui ?
Bonjour. Je me demandais si l'on avait des chiffres clairs sur les coûts de fonctionnement de ces institutions comme l'UNEDIC et l'URSSAF vis-à-vis des recettes de cotisation qu'ils perçoivent.
Oui, ce sont des chiffres publics. Hein. Tu vas sur le site de l'UNEDIC, unedic.fr, tu trouves le montant des cotisations encaissées, hein, qui est de 34,5 milliards de mémoire pour 2018. Et pareil pour l'URSSAF, dans les rapports d'activité que publie l'URSSAF, tu as le montant des cotisations encaissées et des redressements éventuels. Voilà.
Merci.
J'ai oublié de dire dans les propositions qu'on fait, c'est qu'il faut vraiment faire un moratoire sur cette dette. Et arrêter de la payer parce qu'il y a trop d'inconnus. Officiellement, on ne connaît pas les bénéficiaires. Nous, on le connaît parce qu'on en connaît quelques-uns parce qu'on est allé fouiller. Là où on nous attendait pas. Et d'ailleurs, on a envoyé le rapport à tous les membres du conseil d'administration de l'UNEDIC, ça leur a fait un choc. Ils n'ont pas aimé. On n'a pas dit non tout de suite. Surtout, il y avait des chômeurs parmi nous, donc c'est pas une bonne idée pour eux, parce qu'il y avait des craintes de rétorsion. Mais il faut faire un audit de cette dette, que chacun sache, qu'on puisse savoir à qui on paye la dette. Parce qu'aujourd'hui, il y a des blocages juridiques qui empêchent de connaître l'identité des créanciers. C'est vrai pour la dette du Unédic, c'est vrai pour la dette de l'État. Un député qui vote les intérêts de la dette tous les ans avec le budget, il ne sait pas où va l'argent. Il sait que l'argent, 42 milliards par an à peu près d'intérêts de la dette, va dans une chambre de compensation qui s'appelle Euroclear. C'est la petite sœur de Clearstream dont Denis Robert nous avait parlé il y a quelques années. Et c'est Euroclear qui connaît les créanciers, qui lui envoie les intérêts correspondants à ce qu'il possède. On ne connaît pas officiellement. Et des choses qu'on ne connaît pas. J'ai parlé de la privatisation de missions de Pôle emploi. On ne connaît pas les boîtes qui ont les marchés. On finit par le deviner, on sait qu'il y a Capgemini dedans, on sait des choses comme ça, on a quelques noms. Mais on ne connaît pas les entreprises qui récupèrent l'argent d'une EDIC. Le CA de Pôle emploi, Conseil d'administration de Pôle emploi, a posé la question, ils attendent encore la réponse. Ça fait 3 ans qu'ils ont posé la question, ils l'ont posé 2 fois. On a donc besoin de savoir. Et après seulement, on souhaite mettre au débat le fait de dire si cette dette est légitime ou si elle ne l'est pas. Le critère qui peut faire basculer une dette de légitime à illégitime, c'est de savoir si elle a servi l'intérêt général ou pas, ou si elle a servi des intérêts particuliers. Et au cas particulier, je pense qu'elle n'a pas servi les intérêts des chômeurs, c'est le moins qu'on puisse dire.
D'accord, merci. Parce que c'est l'URSSAF qui collecte toutes les cotisations, donc eux ne savent pas réellement tout ce qui va à l'UNEDIC derrière.
Alors c'est l'UNEDIC qui perçoit les cotisations, c'est pas l'URSSAF, hein, soyons clairs. L'URSSAF encaisse ce qu'ils appellent les contributions, dans le langage UNEDIC, c'est ça, des employeurs. Mais ce qu'on ne sait pas, si on connaît les entreprises qui payent, ça n'y a pas de souci, mais on ne connaît pas les créanciers de la dette. La dette, elle est versée à un organisme, je vous ai dit, Euroclear, qui lui connaît l'identité des créanciers. Mais je parle de dette, hein, je ne parle pas des cotisations. Voilà.
Si je peux me permettre, avant l'apparition de la dette, le régime d'assurance chômage était capable d'ajuster ses dépenses et ses recettes. Et puis on a vu apparaître la dette il y a une dizaine d'années à peu près. Et elle n'est pas simplement due à la masse des chômeurs. On brandit cette dette pour culpabiliser les chômeurs. Enfin, excusez-moi, je schématise un peu, mais on est peu là. En fait, non, cette dette enrichit des organismes qu'on ne connaît pas. Voilà ce que dit Pascal. Excusez-moi.
Donc bonjour, Sandrine Larisa. Donc je travaille dans l'assurance chômage. La première question que je voulais vous poser, ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, c'est à quelle date les emprunts ont commencé. Parce que donc ça c'est important. Moi il me semble que je ne connais pas la date, mais ce que je sais c'est que quand les emprunts ont commencé, le régime était excédentaire. Mais c'est intéressant de connaître la date de départ. Ensuite, aujourd'hui, il faut savoir que le régime d'assurance chômage, en réalité, est légèrement excédentaire, puisque la part en fait des cotisations qui entrent et la part donc qui est versée aux allocations chômage s'équilibre, et que le déficit en fait il est dû à des choix politiques de fonctionnement, et notamment avec, le choix en 2008 d'avoir fusionné en fait la CEDIC et l'ANPE. Donc, en tout cas, le déficit, il est artificiel. Et on se base sur ce déficit. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate au sein de Pôle emploi. On se base sur ce déficit pour légitimer une politique d'austérité à l'intérieur même de Pôle emploi en supprimant le personnel et en basculant donc une partie des services dans la dématérialisation. Et si on gratte un peu, on connaît aujourd'hui les bénéficiaires parce que la sous-traitance se développe. Et en fait, une partie des cotisations est détournée vers des sociétés qui s'appellent Tessy et Arvator. Donc Tessy, en fait, est chargée de saisir les bulletins de salaire des chômeurs et les attestations employeurs. Et donc, c'est lié aussi à l'automatisation, en fait, des services. Et quand on demande, en fait, dans les instances, quand on demande, voilà, combien coûte la sous-traitance, parce que donc ils sont payés à la pièce, hein, ils sont payés à la pièce, avec des conditions de travail assez déplorables pour ces personnels-là. Ils n'ont quasiment pas de pause. Ils sont tous en CDD. Hein. Et au fur et à mesure que les postes à Pôle emploi disparaissent, on voit des offres d'emploi pour ces sous-traitants. Et ce qui explique aussi des difficultés derrière de services, puisqu'ils travaillent à la chaîne et ils font de la saisie, ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas la réglementation à l'assurance chômage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Tessy aujourd'hui fait partie quand même des sociétés du CAC 40, moi, à ma connaissance, et que ça gonfle quand même des sociétés privées, voilà. Et il y a également d'autres sociétés privées qui tournent autour de Pôle emploi et qui font partie du... Enfin, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pôle emploi, c'est 10% du budget de l'assurance chômage. Donc en 2008, quand on est passé d'un établissement de 14 000 avec la CEDIC à plus de 60 000, forcément, ça a pesé sur les comptes. Donc ça, c'était un choix politique, ils le savaient pertinemment. Et d'autres sociétés privées transitent, dont IBM, qui travaille avec Pôle emploi. Toutes les formations sont chapeautées par IBM. Donc il y a énormément d'argent qui passe, enfin en tout cas qui bascule vers la sous-traitance. Et enfin, dernier point que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, qui doit payer l'assurance chômage ? Bah, il faut quand même rappeler qu'à la base, la caisse d'assurance chômage, de la protection générale, donc d'un côté de la sécurité sociale et de l'autre l'assurance chômage, c'est quand même la caisse des salariés. Et là, ce qui vient d'être fait en octobre 2018, c'est quand même, moi j'appelle ça le hold-up du siècle. Ils ont quand même pris 35 milliards d'euros, en fait. Ils ont piqué, enfin, c'est un hold-up, ils ont pris la caisse des salariés. Parce que c'était une caisse qui était, en fait, uniquement dédiée. Donc, c'était une part de nos salaires. Donc, la différence entre le salaire brut et le salaire net, c'est ça, les cotisations. Et c'était un salaire qu'on mutualisait pour le risque chômage. Et donc là, quand même, ils ont quand même annoncé qu'ils augmentaient les salaires en nous baissant nos salaires. C'est-à-dire que si on nous vole cette part-là, on ne peut plus donc s'en servir pour le risque chômage. Et en baissant le salaire, en enlevant la cotisation, en fait, on nous baisse nos salaires et on nous empêche de subvenir au risque chômage. Et donc, pour moi, c'est un hold-up. Ils nous ont pris notre caisse. Et qui doit payer la caisse d'assurance chômage ? Ben, moi, je dirais, la réponse était là, c'était les salariés eux-mêmes qui se payaient la caisse d'assurance chômage. Ce n'était pas un impôt, parce qu'aujourd'hui, ça devient un impôt en basculant sur la CSG. Donc là, c'était nos cotisations, c'était une part de notre salaire. Et à la base, ça devrait même être autogéré par les salariés et par les usagers, parce que les chômeurs ont leur mot à dire. Et ils se servent bien de la dette, effectivement, pour baisser les droits des chômeurs. Moi, je peux vous témoigner que beaucoup, les gens cherchent du travail en étant à Pôle emploi, et qu'en face, il n'y a pas un nombre de postes équivalent au nombre de chômeurs, et qu'on fabrique aussi des chômeurs longue durée, parce que de toute façon, il n'y a pas assez de... On est dans une société où le chômage entretient un système qui fait du profit quand il y a du chômage. Voilà.
Ok. Je ne vais pas répondre à la deuxième question parce que ce n'était pas une question, mais un point de vue que je partage intégralement. Sur la première question, il y a eu déjà le premier recours à l'emprunt remonte à 1981. Il y avait eu 79 et 80 qui étaient excédentaires, donc il restait un reliquat. Mais malgré tout, face aux dépenses nécessaires en cours d'année, l'UNEDIC a eu recours à l'emprunt. Mais il y a eu un recours à l'emprunt auprès d'instituts de prévoyance, de mutuelles et d'assurance. Petite précision, à cette époque-là, ces mutuelles, assurances et instituts de prévoyance étaient majoritairement contrôlés par l'État. Ce qui a permis à l'État, d'une part, d'imposer des taux très bas. À l'époque, les taux moyens étaient à 5-6% pour les banques, pour les États, etc. Et là, il y a eu des emprunts à 2%, un truc comme ça. Et l'État a accepté de prendre à sa charge une partie. Le basculement de la dette, que ce soit d'État, d'assurance chômage, ou des hôpitaux ou des communes, a basculé à partir de la période de privatisation 1986. À partir de 1986, toute une série, toutes les banques qui n'étaient, où l'État était majoritaire ont été privatisées. Les assurances sont passées au privé, etc., etc. C'est donc cette période-là qu'il y a eu une envolée des taux et une privatisation de la dette. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire avec cette histoire de dette en général. À la libération, la France avait eu une dette équivalente à 180% du PIB. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, que le PIB, c'est un flux, et le stock de la dette, c'est un stock, un flux, un stock, qu'on ne parle pas, qui était énorme, dû notamment à l'impôt de guerre que la France payait aux Allemands. Deux ans après, du fait de l'inflation,
cette dette était passée à 120% à peu près. Et de 1946 à 1975, on a pu financer 5 plans quinquennaux successifs qui ont permis la reconstruction du pays. On a construit des voies ferrées, des hôpitaux, des écoles, tout ce qui avait été détruit par la guerre. Donc on a eu besoin d'argent et il n'y a pas eu que le plan Marshall. Il y a eu essentiellement des recours à l'emprunt, mais à des taux décidés par l'État et auprès d'organismes contrôlés par l'État. Que ce soit EDF, la SNCF, d'autres, des banques. Hein, les 4 banques principales, la Libération ont été nationalisées. La Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, avait la possibilité de faire des prêts. Donc ils en ont fait pour un nombre d'opérations. Et dans l'histoire de la dette française, on est arrivé en 1978 avec une dette de l'État qui était à 28%. On est passé de 120% en 1946 à 28% en 78, à la fin des années 70. Il n'y a pas de loi de 73 qui a été faite là-dedans, c'est un leurre et une illusion, c'est un mensonge historique et politique. Mais c'est vraiment les privatisations qui ont fait s'envoler les taux. Et quand l'État le contrôle, ce organisme, c'est-à-dire que le fait d'emprunter est un choix politique, c'est plus un choix uniquement économique. Aujourd'hui, l'économie prime sur le politique. Les banques tiennent les États par les bourses, si je puis dire, les bourses de la dette, pour l'obliger à continuer à emprunter, à se lier à ces... Voilà. Donc, moratoire, ça veut dire qu'on arrête de payer. C'est très intéressant, un moratoire, parce que à la Libération, la dette, c'était essentiellement des bons du Trésor. Et il y a un décret qui est sorti fin 1946, décembre 46, je crois, et qui dit qu'on remboursera les bons du Trésor jusqu'à 5 000 francs sur représentation de la pièce de bons du Trésor équivalente. Au-delà, il faudra justifier des ressources qui ont permis ces achats. C'est-à-dire que beaucoup qui avaient collaboré, qui avaient spolié, qui avaient profité du marché noir pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne sont jamais allés chercher leurs bons du Trésor. Et d'après un copain qui travaillait à la Banque de France, ils les ont gardés dans des coffres en bois, des caisses en bois. Il y en a des kilos et des kilos de bons du Trésor qui n'ont jamais été réclamés. Aujourd'hui, imaginez... L'UNEDIC dit « je ne paye plus, je veux connaître l'identité des créanciers ». Puis un mec qui vient et dit « moi je suis créancier, vous pouvez le prouver ?»« Oui, oui, voilà mon compte, ah, mais votre compte il est au Panama, dans un paradis fiscal, c'est illégal, vous soustrayez vos revenus à l'impôt, ce qui est une... donc vous ne serez pas remboursé parce que c'est hors la loi ». Ben, je pense que cette personne n'ira pas se manifester, déjà on gagnera du temps là-dessus. Et ce n'est pas des particuliers qui possèdent les obligations de la dette. Même à travers les SICAP, ce sont vraiment des sociétés liées aux banques, liées aux assurances, liées au système financier. D'avoir bien ça présent à l'esprit, à qui on s'adresse quand on parle de dette, à ceux qui profitent de la société et qui l'écrasent encore plus. D'autres questions ?
La dame.
Je voudrais vous demander si vous avez lu les grandes orientations politiques et économiques de l'Europe. Les accords de l'Europe.
Oui, pourquoi ?
Parce qu'apparemment, le but est de privatiser tous les services publics. Et on donne énormément d'argent quand même pour financer l'Europe. Et il n'y a qu'une petite partie qui nous revient. On donne des milliards et une petite partie nous revient pour financer nos services publics.
Tout à fait d'accord sur cette réflexion. D'autant plus que ce qui revient le plus, c'est ce qu'on appelle la politique agricole commune, qui va essentiellement aux céréaliers, à la grosse agro-industrie, comme on dit. Et c'est vrai que, par exemple, l'agriculture biologique n'est pas du tout... Il y a 3 ans de retard de paiement pour l'agriculture biologique qui peut prétendre à la PAC aujourd'hui. Il y a vraiment un choix de société avec l'Union européenne. Moi, j'ai mené campagne en 2005 contre le traité constitutionnel européen, où on a été majoritaire. Nos gouvernements socialistes et UMP, ou je ne sais plus comment ils s'appelaient à l'époque, ont modifié la constitution pour dire on l'avait accepté. Voilà, bon, la seule chose qu'ils n'arrivaient pas à faire, c'est de changer le peuple, mais on a eu chose, c'est pas passé loin.
D'autres questions ? Monsieur, si vous voulez parler.
Ce problème de la dette est très intéressant. Nous pouvons nous reporter à la fin de la guerre. Pierre Mendès France avait refusé de... avait changé les billets en une seule nuit et avait refusé de renflouer les gens qui venaient avec des billets pleins, les lessiveuses, en disant « je vous en donne tant, le reste vous en faites ce que vous voulez ». S'il en est de même pour les paradis fiscaux, un État bien pensé peut faire la même chose.
Tout à fait. La première chose que peut faire un État, c'est de dire aux principales banques, comme la BNP par exemple, qui a 124 agences dans les paradis fiscaux, de dire ou vous retirez les agences ou vous retirez la licence. C'est l'autorité des marchés financiers qui est sous contrôle d'État qui délivre les licences d'exercice. C'est comme ça que le Crédit Suisse a plié devant le gouvernement américain pour dévoiler ce qu'il y avait sur les comptes de contribuables américains qui cachaient l'argent fisc américain, parce que les États-Unis leur ont dit on retire le droit d'exploiter sur le sol des États-Unis. Et dans d'autres pays, on fera la chasse. Ils ont craqué.
Il y a des entreprises qui ont trouvé la poule aux œufs d'or pour pas payer de cotisations sociales. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Mais apparemment, le juge est en train de revenir là-dessus en transformant leur contrat d'auto-entrepreneur en vrai contrat de travail. Je pense notamment aux livreurs de malbouffe, des Deliveroo et compagnie.
Oui, des grosses bagarres, même à l'échelle européenne, menées chez Deliveroo, notamment, avec des manifestations en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, là-dessus. Donc ça s'inverse pour l'instant, mais ne pas oublier qu'on n'a pas un gouvernement qui est favorable aux salariés aujourd'hui et que c'est un peu la voie qui recommande. T'as pas de boulot, crée ta boîte, quoi, ce qui est un non-sens aberrant.
Quelqu'un veut le micro ?
Bonjour. Vous parliez du moratoire tout à l'heure qui disait qu'on pouvait stopper le paiement de cette dette. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui empêche la continuité de cette dette ? Il n'y a pas de cadre qui empêche la continuité de cette dette, même si une moratoire passe, par exemple. Qu'est-ce qui empêche que la dette continue ?
Un moratoire, ça veut dire on arrête de payer, on examine ce qu'il y a dedans, ce qui ne veut pas dire qu'on annule la dette, d'accord ? Mais une fois qu'on a fait un moratoire, qu'on a identifié les créanciers, qu'on peut déterminer si elle a servi un intérêt collectif ou un intérêt, l'intérêt général, ou l'intérêt d'un petit groupe de particuliers, on peut décider que la dette n'est pas légitime et donc qu'on n'a pas à la payer, il faut l'annuler. La sanction dans le droit international, et c'est pas une chose extraordinaire. Hein. Les rois de France ont eu l'habitude de régler le problème en pendant les créanciers. Bon, c'est pas ce qu'on recommande aujourd'hui, mais la Révolution française en 97 a annulé les deux tiers de sa dette parce qu'elle appartenait aux émigrés royalistes qui étaient partis en Angleterre. Il y a eu des centaines de cas d'annulation de la dette. Et depuis 1945, d'après le FMI, il y a eu 147 annulations totales ou partielles de dette. Et en droit international, la France est signataire de la charte de l'ONU qui dit notamment que ce qui prime par rapport au contrat privé, ce sont les obligations qu'a l'État envers sa population. Les obligations d'un État envers sa population, c'est que la population soit logée, soit nourrie, soit soigné en cas de besoin, puisse avoir une éducation digne de ce nom. Et ça passe avant les intérêts des créanciers. Donc c'est le droit international qui le dit. Il y a un tas de conventions qu'on cite dans la petite brochure qui est à la sortie. Mais il y en a des dizaines de textes qui vont dans ce sens-là. Et il y a eu on peut déterminer aussi, on a fait un audit de la dette grecque, on s'est aperçu qu'il y avait une grande partie qui était légitime, une partie qui était même illégale. Une partie qui était odieuse, c'est-à-dire qu'elle avait servi d'intérêt contre la population, par exemple fermer des hôpitaux, des choses comme ça, et une partie qui était insoutenable, c'est-à-dire que si on payait la dette, on privait la population de droits, de ses biens communs, de la nourriture, etc. Donc il y a un tas d'arguments juridiques pour annuler une dette, mais pour le faire en toute conscience dans le cadre d'un débat public, je crois important, indispensable de connaître les créanciers, de savoir qui sont ces gens-là, à qui on paye la dette. Est-ce que ça permet de déterminer, en plus de l'analyse qu'on peut faire, hein, des choix politiques qui ont été faits avant, que rappelait la copine tout à l'heure, sur la privatisation de Pôle emploi, sur l'obligation de financer par 10% des recettes de quotidien, financer Pôle emploi, on peut dire qu'elle est politiquement plus forte, si on peut dire, qu'elle a servi qu'un petit groupe de personnes. Et alors que c'est général qui a pris dans ces cas-là.
Merci.
Monsieur.
Oui, bonsoir. Quand on parle de la dette à l'heure actuelle, si on regarde bien l'économie mondiale, à l'heure actuelle est basée sur l'argent dette. Donc, à l'heure actuelle, pour payer une dette, il faut faire une autre dette. C'est un cercle vicieux. De toute façon, on ne pourra jamais rembourser une dette.
Tout à fait. Hein, la dette publique des États est considérable. Et ce qui est facteur de crise aujourd'hui, c'est que la dette publique plus la dette privée ont atteint des proportions telles qu'elles ne sont pas... Emprunter n'est pas une mauvaise chose en soi. Je donne un exemple. En Équateur, on a permis l'annulation de 70% de la dette de l'État. Et l'État en a profité de ces économies pour financer la construction d'écoles, des postes d'enseignants, un programme d'alphabétisation, la santé accessible à beaucoup plus grand de personnes. Ça, c'est utile. Ça, c'est une dette utile. Le fait qu'on ait reconstruit le pays à la libération, c'était aussi quelque chose d'utile pour le pays. Voilà. Donc, ce sont des dettes utiles. Quand on n'est pas ficelé par des créanciers privés comme les requins qu'on connaît aujourd'hui, on peut faire des choses utiles. Mais investir, faire des trains, on en pense ce qu'on en veut, mais bon, voilà. Moi, je trouverais utile d'investir dans le fret aujourd'hui plutôt que d'avoir des camions sur les routes. Moi, je vis en Bretagne, on a presque pas de voie de chemin de fer, on supprime des petites gares. Par contre, des camions, il y a des tonnes, et c'est pour ça qu'on a les 4 voies gratuites en Bretagne. Voilà. Donc c'est vraiment une question politique, mais je crois que pour décider d'annuler, il faut que la population soit consultée. Pour qu'elle soit consultée, il faut avoir le maximum d'éléments là-dessus, dont l'identité des créanciers, en plus des mécanismes. Parce que ça, je veux dire, on l'a fait dans un langage à peu près clair. Si vous aimez les romans policiers, il y a une seule question à laquelle il faut répondre, c'est à qui profite le crime. Voilà, la dette est pareille. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Pardon.
Oui, surtout qu'avant, en plus, la création de l'argent était faite par l'État, qui était souverain, alors que maintenant, la création de l'argent est faite par des banques privées.
Alors, sur la création monétaire, je suis d'accord avec toi, elle est objectivement par les dettes privées, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'une dette qui n'a pas comme contrepartie la création de valeur ou de biens, elle repose sur du vent. Donc au moins de courant d'air, un vent contraire, cette dette s'écroule et c'est la crise. C'est ce qui s'est passé avec les subprimes. Les subprimes, on dit votre maison vaut 5 millions de dollars alors qu'elle n'en valait qu'un. Et quand il a fallu la réaliser, il n'y a eu personne vous payer. Parce que l'immobilier s'est cassé la gueule, etc. etc. Donc la titrisation, on y revient. On a les mêmes ingrédients. Et moi, sans être prophète, je peux vous dire que d'ici 2 ans, on aura une prochaine crise économique et financière au moins aussi violente que celle qu'on a connue en 2008-2009. Au moins aussi violente.
Je suis surpris par rapport à ce que dit monsieur, par rapport à la création de l'argent. Je pensais qu'il était fait par nous quand on achetait un appartement. Mais bon, c'est une parenthèse. Je voulais savoir, vous avez parlé de Clearstream tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez débattre un peu là-dessus? Ou d'Euronext, je crois. Je n'ai pas bien compris le nom.
Euronext, pour commencer par la fin, c'est un marché financier qui est reconnu par les États où passent toutes les obligations. C'est l'adresse du marché secondaire principalement. C'est là où tous les gens qui possèdent, parce qu'une banque qui a prêté à un État ou à l'UNEDIC possède des obligations, mais elle les achète, elle les prend pour le compte de ses clients. Et les clients donc se retrouvent sur le marché. Donc sur le marché secondaire, Euronext est un outil du marché secondaire. Voilà. C'est une boîte de marché d'occasion. Clearsim, c'est une chambre de compensation. Quand vous faites un chèque à votre boucher, vous êtes à la BNP, lui il est au Crédit Agricole. Il y a une compensation qui doit se faire entre la BNP et le Crédit Agricole sur l'ensemble des chèques. On ne peut pas le faire chèque par chèque, donc on le fait montant de valeur par montant de valeur. Et pour ça, il faut des chambres de compensation à l'échelle européenne, voire mondiale, suivant les cas. Donc c'est ça, ces chambres de compensation. Le scandale de Clearstream, c'est que dedans, on y a trouvé l'argent de la mafia, on y a trouvé l'argent des scandales financiers, de Parmalat, d'Enron, de gens comme ça. Et on y a même trouvé... j'en ai discuté avec Denis Robert il n'y a pas très longtemps. On a même trouvé l'argent de la CADES. La CADES, vous savez, vous payez la CRDS sur vos salaires. Un organisme qui a été créé par Juppé et qui est censé rembourser la dette de la Sécu. On trouve des comptes de la CADES dans les tableaux de Clearstream. Ils ne sont pas faciles à trouver, hein, je peux vous assurer. On les a trouvés, mais ce n'est pas facile. Et on les a identifiés. On a posé la question via des parlementaires, on attend toujours la réponse. Voilà, donc, la question qui est par rapport à cette finance, c'est vraiment le contrôle citoyen qui est en jeu. C'est-à-dire que si on ne contrôle pas l'activité des banques directement, on ne peut pas leur faire confiance, même quand elles sont nationalisées. Quand les banques françaises étaient nationalisées, ça ne les a pas empêchées de faire des saloperies avec les pays du Sud, avec la vente d'armes, avec la facilitation de transfert d'argent pour la corruption dans les pays du Sud, mais également pour financer les partis politiques en Europe. Voilà, il faut vraiment un contrôle citoyen avec les salariés des banques et la population. C'est impératif.
Si on part sur l'idée, par exemple, que la France annulerait la dette ou une partie de la dette, il y aurait quand même des représailles de l'extérieur, donc ça pourrait se passer comment, quoi ?
Alors, je vous ai dit, des pays qui ont annulé la dette, il y en a des tonnes. Un exemple qui est connu de nos grands-mères et grands-pères, c'était les bons russes. On avait des emprunts russes, et puis du jour au lendemain, ça valait pas le poids du papier. Si, parce que c'était joli, c'était bien décoré, moi j'en ai, je ne l'aurais jamais remboursé, parce que ça ne fait rembourser qu'à peu rien. Mais bon, ça c'est une décision qui a été prise par un décret en 1918. En 1922, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis ont proposé à l'URSS de lui prêter de l'argent pour son développement. Parce que, pourquoi ? À chaque fois qu'un pays annule une partie de sa dette, il va mieux. S'il va mieux, il est plus solvable. Et un exemple, je vais parler de 1918, mais un exemple très récent, c'est l'Islande. L'Islande a dit « Je ne paierai pas les scandales qui sont autour des bons ICEV. » Les bons ICEV étaient des bons qui appartenaient majoritairement à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Ils ont dit « On ne paiera pas. » L'Angleterre les a mis sur la liste des pays terroristes, au même titre qu'Al-Qaïda. Le FMI a dit « Vous allez à la ruine. » Il y aura des représailles, vous trouverez l'argent nulle part. C'est le FMI qui leur a dit ça. C'est mieux là. Résultat, l'Islande est un des pays qui a connu la plus forte croissance économique, qui s'est redressé. C'est un petit pays, mais tous les pays qui ont fait le choix d'annuler totalement ou partiellement leurs dettes se sont mieux portés après, économiquement, socialement, etc. Donc les marchés financiers, leur boulot, c'est de prêter de l'argent. Et ils ne peuvent pas vivre sans prêter. Donc, de même, comme ils sont allés voir l'URSS, ils sont retournés voir l'Équateur, ils sont retrouvés voir l'Islande, ils sont retournés voir toute une série de pays, la Pologne, la Roumanie, des pays africains, le Mexique. Tous les pays qui ont fait des annulations totales ou partielles de leurs dettes ont vu les financiers se ramener 6 mois après. On peut vous prêter de l'argent, parce qu'on est gentil, on vous prête de l'argent à des taux très bas. Parce que la santé économique du pays s'en trouve améliorée. Ce qui est bien la démonstration, dans le réel, que cette dette est un poids, un frein pour l'économie. Dans la mesure où cette dette n'a pas comme contrepartie une création de valeur. Quand on emprunte, comme a fait la France à la Libération et après, pour fabriquer des autoroutes, des ponts, des hôpitaux, etc., développer les chemins de fer en France, on a un patrimoine qu'on a créé. On a une valeur sur laquelle repose et est crédible la dette. Quand c'est une dette pour payer des déficits budgétaires comme on le fait en France, on va dans le mur. Tôt ou tard, on va dans le mur. Voilà. Donc, annuler la dette, et aussi une très bonne économie pour le pays.
Oui, mais du coup, au niveau de l'Europe, ça se passerait pas très bien, quoi. On imagine bien que...
Quand Tsipras a été convoqué en fin janvier 2015, juste après avoir été élu, nous, on avait déjà commencé à travailler sur la dette de la Grèce depuis 3 ans, on travaillait dessus. Et on a fait un comité d'audit qui a abouti à des recommandations sur... la valeur de cette dette, dont la grande partie était à annuler. Ils seraient allés voir les Européens. L'Eurogroupe, qui est une structure qui n'existe pas, hein, qui a été inventée toute pièce, en leur disant, voilà, j'arrête de payer. T'as la Deutsche Bank, t'as la BNP, t'as le Général, le Crédit Agricole. D'autres banques auraient dit, alors l'Eurogroupe, arrêtez de négocier, on veut récupérer quelque chose. Parce que l'Eurogroupe travaillait sous pression de la finance. Et Tsipras a refusé de mettre ça en avant. C'était un choix, mais c'est une erreur politique. Il aurait dit, si vous m'embêtez, je ne paye pas. Que pouvait faire une européenne? Fermer le robinet de la monnaie? Ils l'ont fait quelques semaines après, quelques mois après. Eh bien, il n'y avait qu'à quitter l'euro. Pas une européenne, mais l'euro. Il pouvait très bien rétablir la drachme. Il pouvait mettre en place une monnaie complémentaire. Et ce n'est pas une histoire de zozo. C'est pratiquement l'Équateur a établi le peso parce que la monnaie c'était le dollar. Il y a tas de pays qui ont pu s'en sortir jusque-là. Mais là, ce qu'ils ont voulu faire avec la Grèce, c'est un exemple. Comme ils ont fait un exemple avec le Chili en 73. Ils ont fait un exemple de néolibéralisme. En 73, un exemple de libéralisme accentué avec une répression dictatoriale. Mais là, c'est aussi violent parce qu'il y a eu pas mal de morts dans cette affaire.
Je ne comprends pas toujours les mouvements financiers, mais quand il y a une annulation de dette, il n'y a pas aussi une création de fonds, les fameux fonds vautours, qui ensuite revendent sur le marché. Enfin, c'est un article dans Politis qui a été assez intéressant et que le gouvernement belge était bloqué là-dessus.
Les fonds vautours sont une forme particulière de fonds spéculatifs qui rachètent la dette de pays en difficulté et qui refusent de participer au plan de restructuration de la dette et qui après mettent un procès au pays pour exiger le paiement du capital plus des intérêts exorbitants. Ils arrivent à faire jusqu'à 2000% de bénéfices sur cette opération. En Belgique, il y avait une loi belge qui a été votée en 2015 où on avait proposé, contrairement à Belgique, pas mal. Cette loi belge protégée contre les fonds vautours, et ce qu'a voulu le principal fonds vautour mondial, c'était faire annuler cette disposition légale. Donc avoir un champ libre sur la dette belge. On a mené une campagne, on est allé jusqu'à l'équivalent de la cour de casse en Belgique, hein, la plus haute instance juridique, et on a gagné l'an dernier au mois de juin, comme quoi on peut gagner aussi contre ces fonds vautours. Mais c'est des gens... Ils récupèrent les créances des pays. Par exemple, le Congo vendait de l'électricité à l'Afrique du Sud. Parce qu'il y avait des barrages qui permettaient de les vendre. L'Afrique du Sud n'a pas pu payer au Congo, elle a payé aux créanciers, aux fonds vautours. Donc le Congo n'a rien eu. Voilà, c'est de la prédation pure et simple. Ils ont fait la même chose en Argentine et dans d'autres pays. On les connaît, hein. Ils font ça tout le temps. Et ils vont sur des juridictions anglaises, américaines, plus favorables au libéralisme. Donc voilà, nous on a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 qui préconise des restrictions par rapport au fonds vautour, mais qui n'est pas très claire non plus. Il ne faudrait pas qu'on ait une attaque de fonds vautour sur une défaisance de dette. À moins d'avoir un rapport suffisant pour les envoyer paître, mais un peu comme en Équateur, quand le FMI s'est pointé... le gouvernement lui a dit on ne vous reconnaît pas dehors, la Banque mondiale dehors, les créanciers, on va vous mettre au CIRDI, qui est le tribunal de l'OMC. Il a dit on ne reconnaît pas l'OMC dehors. Voilà, comme ça, les choses politiquement étaient plus simples. Mais l'Équateur avait du pétrole aussi, ce qui aide un peu. D'autres questions? Je ne sais pas où on en est venu du temps.
Bonsoir. Je voudrais savoir qui s'oppose au moratoire de la dette.
Alors, déjà, les gouvernements qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, quand on leur a parlé d'instaurer un moratoire pour connaître l'identité des créanciers, Par exemple, il y a une députée UMP à l'époque qui avait demandé à Barnier, qui était aux finances, mais parmi les créanciers, il n'y aurait pas des Arabes. Elle a pas dit ça, mais elle a parlé de Moyen-Orient, de Chinois, voilà, pas des tas de fantasmes, cette dame. Et Barnier, il a dit, madame, je ne vous dirai pas qui sont les créanciers, parce que même si je le savais, je ne vous le dirai pas, parce que la loi me l'interdit. Parce qu'en 2000 et 2002, il y a eu des modifications du code monétaire et financier et du code du commerce, qui sont pourtant des codes de droit privé, pas de droit public. Et moi, je vous parle d'argent public, là. Et qui interdisent de connaître l'identité des créanciers. Et en fonction des deux articles de loi, ces articles codifiés, donc législatif, pas réglementaire, mais législatif, on ne peut pas connaître l'identité des créanciers. Mais il suffit d'abolir ces deux textes. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, il y a une autre façon de connaître l'identité des créanciers, c'est d'arrêter de payer. Je peux vous assurer, vous arrêtez de payer, vous avez du monde qui va sonner la porte. Vous me devez des sous. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Il est où? Et tout. Ça passe un petit peu différemment. Voilà. Les négociations, c'est dans de meilleures conditions. Voilà, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. Quoi. D'autres questions? Je veux dire aussi, c'est qu'il y a les privés d'emploi aujourd'hui en France, ben des tas de bagarres. Vous avez vu ça à Lyon, mais je viens de connaître ça à Rennes, également à Paris. Au siège de l'UNEDIC, partout, les locaux de Pôle emploi de l'UNEDIC sont régulièrement envahis, occupés, voilà, pour montrer, donc de maintenir un rapport de force important pour empêcher le gouvernement Macron d'appliquer n'importe quelle disposition contre les chômeurs. Je vous appelle à participer à ces mobilisations si vous avez l'occasion. On arrête là ?
S'il n'y a pas d'autres questions.
Ouais, s'il y a des questions, moi je reste là jusqu'à soir.
Une dame, la dame.
Enfin, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, c'est un chômeur sur deux qui est indemnisé quand même, c'est important. Ça veut dire que moins d'un chômeur sur deux touche une allocation chômage et qu'il n'y a pas de corrélation. Donc en fait, malheureusement, les réformes qui sont en cours renforcent les équipes de contrôle de recherche d'emploi au sein de Pôle emploi. Je vous rassure, les agents ne sont pas précipités sur ces postes. Il y a eu aussi des recrutements externes. Bon, en interne, on combat ça, mais c'est compliqué, voilà. Et en plus, c'est fait par des algorithmes aussi aléatoires. Enfin, il y a des algorithmes qui, en fait, traitent ces recherches d'emploi. Et les agents qui vont être chargés de contrôler les chômeurs ne sont pas sur site. Ils ne voient pas les gens, en fait. Hein. Donc, ils ont isolé des agents qui travaillent à huis clos sans voir les gens. Donc, voilà, c'est assez particulier. Et il y a eu quand même une première étude faite par Pôle emploi, elle est publique, hein, vous la trouvez en ligne, pas de souci. Et en fait, il n'y a pas de corrélation entre percevoir des allocations de chômage et rechercher un emploi ou pas. Et même les chiffres de Pôle emploi le disent. Donc des personnes qui ne chercheraient plus un emploi, soit parce qu'elles abandonnent l'idée de retrouver un emploi dans un marché qui est saturé, souvent elles ne sont pas indemnisées en fait. Il n'y a pas un lien qui existe. Et c'est pour ça que tout le discours qui est de dire chômeur fraudeur ou chômeur profiteur, en fait, on peut le déconstruire uniquement en sachant ça. Voilà.
Ben, écoutez, vous êtes tous plongés dans vos réflexions. Si c'est... Ben, écoutez, à ce moment-là, on remercie Pascal pour son intervention qui a été très riche.